Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir tout le monde, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Canut. Vous êtes bien à l'émission de La Causerie pour le dimanche 17 janvier de 22h à 23h. Comme à l'habitude, cette émission est enregistrée bien évidemment la veille, le samedi 16. Il est actuellement, on va dire 16h, c'est ça à peu près ?
À peu près, c'est ça.
Voilà, en mode confinement, ça n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé, ce sont ceux qui sont devant leurs ordinateurs, Fab par exemple.
Bonjour, soir, enfin, c'est plus.
Bonjour, c'est bonjour, on dit bonjour.
Bonjour.
Nous avons également Jean-Yves.
Bonjour.
Et puis Clara, à la technique aussi.
Bonjour.
Et MK, donc, qui nous fait cette ouverture en fanfare.
Bonjour. Ça va être le mot du jour, hein, effectivement.
Voilà.
Alors, comment dire ? Écoutez, petit rappel pour nous joindre. Comme tous les dimanches, vous pouvez nous écouter sur 102.2, mais également, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming audio, sur Internet, mais également sur le blog @blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous pouvez nous écrire, et ça nous fera vraiment du bien, puisqu'on reçoit des petits messages qui nous font vraiment chaud au cœur. Continuez comme ça. À l'adresse mail, donc, lacauserie@canu.com, je l'ai bien dit, c'est bien enregistré.
Au bout de quelques années d'émission, tu l'auras, je pense.
Non, en plus, j'ai pas de mémo là pour le coup. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a d'autres plateformes, mais bon, on va pas les citer puisque du coup, voilà. Vous nous trouverez facilement, quoi qu'il en soit. Cette émission, nous allons la démarrer aujourd'hui avec toi, Fab.
Ouais.
J'allais dire un coup de cœur, coup de...
Plutôt coup de gueule que coup de cœur, pour le coup.
Voilà, c'est ça, pour moi.
D'accord. Oui, en fait, les récentes révélations et dénonciations autour des pédocriminels supposés Olivier Duhamel et Claude Lévesque m'ont fait m'interroger autour de la notion de silence, ce silence entretenu et choisi. Du coup, j'ai décidé d'écrire une lettre à ceux et celles qui ne croient pas que le silence tue. Donc, je vais vous lire la lettre tranquillement, en mode au coin du feu, comme on dit, mais avec un peu de colère. À toi qui ne penses pas que le silence tue. Si je te lis ces mots à la radio, c'est pour t'exprimer mon profond mal-être face à ta position, celle qui défend que le silence n'est jamais grave, n'a pas de conséquences et n'entraîne rien. Oui, je t'ai entendu plus d'une fois, lu plus d'une fois, minimiser le rôle de la parole, de la dénonciation, appelant à la plus grande retenue envers les personnes montrées du doigt par celles et ceux se présentant comme leurs victimes. C'est une sorte de constante. Tu vas venir non pas défendre la présomption d'innocence, mais bien la personne en elle-même, nous expliquant les qualités énormes, les savoirs et autres dons qu'elle possède, demandant même pas à demi-mot aux victimes présumées ou non de la fermer. Je t'ai vu cracher sur Vanessa Springora quand elle a fait tomber Matzef, expliquant qu'après tant d'années, elle aurait pu continuer à se taire pour ne pas salir le génie de la littérature. Je t'ai vu minimiser les dires d'autres victimes, accusées de vouloir se faire de l'argent, entre autres infamies. Tu as toujours une bonne raison pour nous expliquer en quoi le silence serait préférable à la réalité, à la justice. Ton couplet, je le connais, car il est aujourd'hui bien médiatisé quand c'est une célébrité ou une personne dite puissante qui est accusée. Le plateau de télé en tribune, tu vas défendre l'accusé, au point d'en oublier les victimes supposées ou reconnues. Il n'y aura aucune limite dans ce qui sera dit et publié, car l'art du silence est ancien. Qu'on ne se trompe pas, il n'y a pas que pour les riches et les puissants que le silence est demandé. Il n'y a pas que chez eux que les victimes sont niées. Chez eux, ça se voit, parce que la presse relaie les choses, parce qu'elle porte cette espèce de regard, avant curieux et malsain, aujourd'hui plus clair, sur les condamnations, autour de ces affaires, comme on dit. Mais penses-tu vraiment qu'ailleurs ce soit différent? Combien de familles ont couvert les actes d'un de ses membres, les crimes, au nom des choses aussi dégueulasses que l'unité familiale qui serait à préserver, la santé fragile d'un des membres de la famille qui ne supporterait pas la réalité et que cela tuerait, la peur de voir le ou la coupable partir, et tant d'autres aberrations encore. Combien de crimes couverts au nom de des traditions, des religions, de la peur du regard des autres? Combien de crimes couverts par des psys qui feront une thérapie familiale en expliquant que tout cela, c'est un trop-plein d'amour, là où il n'y a que viol et abus? Tu penses que j'exagère? Mais non, le silence est la règle dans nos sociétés sur ces sujets. Comment expliques-tu que l'on puisse avoir des chiffres précis sur le nombre de Français qui aiment manger du fromage avec des vraies bonnes études sociologiques vastes sur le sujet, mais qu'aucun chiffre solide n'existe sur les personnes ayant été abusées dans leur enfance? Comment tu expliques qu'aucune étude d'ampleur n'ait été diligentée en France depuis les années 90? Comment penses-tu que l'on soit réduit à donner des chiffres approximatifs parlant de 10% de personnes ayant subi la pédocriminalité sans être certain de ne pas sous-estimer ce chiffre? Des associations font un boulot énorme pour accompagner, aider, mais aussi tenter de quantifier les choses. Mais où sont les moyens publics sur le sujet? Combien de thèses et de doctorats interdits ou refusés sur le sujet? Combien de commissions freinées, retardées, non mises en place ou étouffées? Tiens, t'as vu la dernière? Il n'avait rien trouvé de mieux que de nommer une femme à la tête de la future commission. Et devine quoi? Une proche d'un pédocriminel supposé. Elle est pas bonne celle-là? Attends, j'ai pas terminé. Je vais te parler des mythes créés de toutes pièces pour pousser encore plus au silence. Un des mythes, celui du prédateur extérieur, seul responsable des actes odieux. Oui, ces criminels sur lesquels vont être faits des milliers d'articles et de reportages. Alors oui, les prédateurs pédocriminels existent, mais ils sont minoritaires dans les ordures. En fait, c'est au sein de la famille et du cercle proche que les actes pédocriminels sont les plus fréquents. Mais le regarder en face, ce serait briser un des socles de nos sociétés, la pureté de la famille. Alors, depuis des décennies, on entretient la peur de l'extérieur et on étouffe la parole des victimes de l'intérieur. C'est un impensé sans doute qui amène à cela, mais depuis maintenant une vingtaine d'années, et grâce aux associations, on sait que 70 à 85% des crimes pédocriminels ont lieu dans la famille ou le cercle proche. Continuer à mettre ou à surexposer la minorité, même si elle n'est pas à nier, c'est continuer à obliger la majorité des victimes à un parcours violent pour être reconnues. Quand on imagine le pédocriminel comme une copie de Marc Dutroux, alors qu'il n'est le plus souvent que sous les traits d'un membre de sa propre famille, comment croire les victimes? Oh, et puis je te vois venir aussi avec ton argument du « il n'avait qu'à parler avant » ou « mais pourquoi maintenant ?» Je vais te faire un parallèle avec une citation anonyme. « Quand nous sommes revenus, tout le monde voulait tourner la page. Nous, nous voulions parler, mais personne n'a su écouter, ou même n'avait envie d'entendre. Nous étions seuls, seuls face à nos douleurs et aux horreurs, seuls parce qu'on nous demandait de nous taire. » Ces mots sont ceux d'une personne qui revenait du camp de Dachau. Et tu vois, le parallèle se tient. Dans une société qui refuse d'entendre et d'écouter, les victimes se taisent, contraintes et forcées. Ou aussi parce que le traumatisme a été tellement violent qu'il bloque la parole, crée du déni pour arriver à survivre. Voilà, cette sortie te paraîtra sans doute excessive, redondante peut-être. Eh bien, sache que je m'en fiche. Dans cette société du silence, il est temps de faire du bruit. Il est temps d'être aux côtés des victimes et de cesser de les laisser porter seuls tout cela. Comme pour d'autres sujets, il n'y aura pas d'avancée sans que nous nous saisissions des choses. Tu vois, tu t'en remettras, peut-être en changeant d'avis ou pas. Mais personnellement, moi, j'ai plus envie de silence. Je veux des milliers de voix qui se lèvent, que la peur change de camp et que la honte soit sur les pédocriminels et pas sur les victimes. Ne nous taisons plus.
Eh ben voilà.
C'était mon coup de gueule du soir.
Eh ben, il est...
fallait que ça sorte.
Ouais.
Il est très bien.
Voilà. Mmh. Moi, je vous propose qu'on mette un peu de musique pour détendre l'atmosphère et puis on revient après.
Faisons ça.
Allez. Allez.
Stop by, won't stop by, with a million. for building some. Working hard to make sure that us children we laugh for nothing. So when you people come around and treat this like we're basic, I just wanna LOL and tell you to consider all your options. Caution, natural distortion, and you can't even kill us, so I've even a portion. Say we cannot make it, watch us how we make it. Watch us in a minute, come and run it, overtake it.
De retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org, on vient de s'écouter Mutoni Drummer Queen et le titre Million Voices.
Eh ben, c'était vachement bien parce que des millions de voix qui s'élèvent, c'est toujours mieux qu'un grand silence.
Exactement.
Et on va continuer cette émission avec quelqu'un qui veut nous parler d'un drôle de sujet, les robots. MK, qu'est-ce que cette idée?
Mais oui, je voulais vous parler des 100 ans de la robotique.
Ah.
C'est génial à tous les geeks qui vous m'entendez. Alors, pour être précis, ce n'est pas vraiment les 100 ans de la robotique, c'est en fait les 101 ans en vrai. En vrai, je me réveille tout juste là d'un sommeil d'un an, c'est pour ça en fait. Bizarrement, ça coïncide avec l'apparition d'un fameux virus, tu sais, qui nous a particulièrement mis en mode veille, ralentissant par la même occasion tous nos faits et gestes. Bon, j'exagère un peu, hein. On n'est pas vraiment rentré en hibernation depuis, hein. Juste que parfois, certaines news, en fait, passent inaperçues. Et heureusement, ici, à la causerie, hein, mes acolytes et moi-même, nous faisons en sorte de mettre tout ça en lumière. Alors, pour revenir à nos moutons, donc à la robotique. Alors, en fait, donc, ce n'est pas les 101 ans de la robotique, mais du mot robot. Du mot robot. Car, à vrai dire, la robotique n'a pas 100 ans, hein, au sens où on l'en entend. Mais attendez un peu, vous comprendrez finalement pourquoi. Alors, tout se passe en 1920, le mot « robot » apparaissait pour la première fois dans une pièce de théâtre d'un écrivain tchèque qui s'appelle Karel Čapek. Et la même année, naissait Isaac Asimov, grande figure de la science-fiction et inventeur manifeste des lois de la robotique en 1942. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, vous savez ce que le mot « robot » a 100 ans et qu'ensuite un auteur naissait la même année. Il fut un prodigieux pilier de la SF et de la vulgarisation scientifique. À vous les micros.
Merci. Bon, au moins, on est sûr de faire une heure d'émission et pas plus.
Non, je plaisante, il reste encore 5 pages à lire. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, mettez-vous bien au chaud près de la cheminée, enroulez-vous dans votre plaid et une tasse de chocolat chaud entre vos mains et écoutez cette petite histoire. Donc, il était une fois, il y a maintenant 101 ans, dans le petit village russe de Petrovichi, non loin de la frontière de la Biélorussie, naissait dans la famille juive des Asimov un petit garçon que ses parents nous prénommèrent Isaac. Lui et sa famille, alors qu'il était nourrisson, décidèrent de fuir la Russie devenue soviétique pour aller vivre à New York. À peu près au moment où naissait le petit Isaac, quelques 1400 km plus à l'ouest, un homme d'une trentaine d'années du nom de Karel Kapek, étoile littéraire montante de la République tchécoslovaque, réfléchissait à la création d'une nouvelle pièce pour le Théâtre National de Prague. Ses héros, devaient être, selon ses propres dires, des ouvriers artificiels ou des machines de travail vivantes et intelligentes. Il avait songé d'abord à les désigner sous le terme de labori, en s'inspirant du mot latin labor, dans le sens travail, labeur. Mais cette appellation ne lui convenait pas. Il en touche donc deux mots à son frère aîné Joseph, peintre de métier, qui un jour lui marmonna entre deux coups de pinceau « Tu n'as qu'à les appeler les robots ». Et c'est comme ça que l'affaire fut réglée. Alors ce nouveau mot, en fait, doit son origine à l'existence dans la langue tchèque du verbe « robit », qui signifie « faire travailler, œuvrer, fabriquer », et du substantif « robota », qui signifie « corvée ou besogne ». Donc, dans l'idée de son inventeur, le robot devient donc un être chargé en quelque sorte de « roboter », c'est-à-dire capable d'accomplir les mêmes tâches que ceux qui étaient chargés de la robota, donc de la besogne, d'un travail plus ou moins forcé. Bon, ensuite, le reste de mon histoire est très longue, hein, vous ne le voyez pas, mais j'ai encore 5-6 pages d'écriture. Régalé à faire ce sujet. Mais en vrai, je ne vais pas tout lire, même si on a pris cette tendance ces derniers temps à faire des émissions de plus d'une heure. Mais là, il y a trop de choses à raconter. Donc, je vous invite donc, si vous êtes intéressé et passionné, de lire, par exemple, l'article du Courrier international du 29 mars 2020 pour en savoir plus sur ces deux célèbres auteurs que sont Karel Kapek et Isaac Asimov et des centaines de robots. Avant de continuer, et toujours dans la robotique, je voulais vous poser une petite question. Vous qui êtes amateur de SF, de films et de littérature de science-fiction, et les geeks aussi et dans tout genre, quelles sont les trois lois de la robotique qui ont été définies donc par Isaac Asimov et reprises et qui sont connus dans le monde entier de la SF, permettant aux hommes et aux robots de vivre les uns à côté des autres au sein d'une société bien évidemment utopiste et futuriste. Bon, là, j'ai un petit jingle du temps qui passe.
Si tu veux qu'on te donne ça comme ça, au mot près, moi, je ne m'en rappelle plus. Hein, je connais les grands principes, mais...
Non, ouais, bon, j'imagine que vous avez plus ou moins les...
Alors, moi, pas du tout. Je ne suis pas du tout SF, tout ça, donc...
Alors, la première loi, en fait, la plus connue, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain ni rester passif en le laissant cet être humain exposé au danger. La deuxième loi, c'est qu'un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première. La troisième loi dit qu'un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Et incontestablement inspiré par les principes de la thermodynamique, Asimov ajoute plus tard encore une loi zéro de la robotique, qui sera en fait de facto la quatrième, qui précise qu'un robot ne peut ni nuire à l'humanité, ni permettre que l'humanité soit exposée au danger par son inaction. Elle reprend en fait la première loi, mais de façon donc plus globale.
En fait, l'idée d'Asimov, c'est d'empêcher la création de tout robot militaire. Au final, quand on lit bien à travers les lignes, c'est ça, en fait.
Avec une peur, c'était justement que les robots puissent se soulever, effectivement, et combattre le genre humain. Hein. Et puis, on le voit tout particulièrement dans plusieurs films, hein, notamment, par exemple, dans iRobot, avec Will Smith. Vous savez, ces fameux robots qui sont militaires, mais dans un, par exemple, plus particulièrement humain, qui va plutôt venir en aide au genre humain, et qui, justement, lui rentre dans ses lois de la robotique. Mais en fait, vous savez ce que c'est qu'un robot ou la robotique, car là, depuis le début, je parle, mais je n'ai pas vraiment défini ces deux termes. En fait, un robot est un dispositif mécatronique, hein, c'est-à-dire qui allie la mécanique, l'électronique et l'informatique, et il est doté d'un squelette avec un ou plusieurs membres, ainsi qu'un ordinateur qui fait office de cerveau, conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou reproduisant, des actions humaines. Un robot est capable de répondre à l'environnement extérieur, contrairement à certaines machines dites un peu inactives. Donc, il peut donc répondre à des stimuli du style son, lumière. La conception de ces systèmes est l'objet donc d'une discipline scientifique, branche de l'automatisme nommée la robotique. Alors, vous savez, vous, si les machines et les automates sont des robots? Par exemple, la machine à laver, le lave-vaisselle, ou bien le célèbre canard de Vaucanson. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce célèbre canard de Vaucanson qui était un automate de 1732, inventé par le grenoblois Vaucanson, qui permettait à cet appareil de manger, caqueter et de même chier carrément. Automate en métal et bois, qui a été malheureusement détruit dans un incendie. Il n'en reste que des écrits dessus.
D'accord.
Mais également l'écrivain. Et il y a aussi d'autres automates qui ont été créés. Vous savez, ce fameux écrivain et dessinateur, ce petit garçon en métal dans une cage qui a inspiré le film de l'invention de Hugo Cabret.
Mais du coup, c'est quoi la différence que tu fais entre un robot, au sens premier du terme que tu dis, et par exemple ma machine à pain? J'en ai pas de machine à pain. C'était pour faire l'exemple.
En fait, dans un sens, c'est très proche. Parce qu'en fait, les automates sont en fait les ancêtres des robots. Et les inventions facilitant le quotidien, comme les machines à laver, ton grille-pain éventuellement, en fait, font partie d'une branche de la robotique qu'en fait, on appelle la domotique, tout simplement. Et puis, il y a une histoire de chronologie. On n'appelait pas ça des robots textuellement, puisque le mot robot n'a été inventé qu'en 1920. Avant, c'était des automates. Ensuite, depuis l'apparition de l'électricité et des appareils électriques qui ont existé bien avant 1920, on ne les appelait pas encore des robots, tout simplement. C'est une histoire de coïncidence avec le temps et puis derrière avec des branches qui se sont multipliées dans les inventions technologiques, avec les robots industriels, les robots intelligents, la domotique et puis tout ce qui est mécanisme automatique, qui sont du coup restés comme les ancêtres, restés à l'heure actuelle comme des automates. Voilà, donc là, en parlant de ces automates, ils existent en fait depuis l'Antiquité. La première œuvre de ça, c'est la roue. Ça date d'il y a 3400 ans, en fait. Fait partie, entre guillemets, d'après certains, peuvent être considérés comme une invention technologique, comme une invention dite automatique. Parce qu'avant, on faisait pousser les choses au sol avec des patins, comme des sortes de ski, tout simplement. Et la roue a été une très grande invention qui a un peu fait démarrer l'ère de l'automatisme.
Okay.
Il y a eu l'horlogerie, il y a eu tous les mécanismes que l'on connaît actuellement.
Les roues à aubes aussi, tout ce qui permet en fait de démultiplier la force.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est pratique.
Oui, tout à fait, pardon.
Je t'ai fait pas bugger, du coup.
Non, mais je te laissais faire la liste des inventions. Je me suis dit, il allait continuer.
Ah non, je me suis arrêté là, ça m'allait bien.
Ah bon, bah écoute, moi j'allais continuer sur tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toutes ces inventions depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours sont l'œuvre presque exclusivement d'hommes, au masculin bien sûr. Et que fait un homme lorsqu'il invente quelque chose? Ben en fait, il assouvit tout d'abord sa position dominante dans une société patriarcale et sert bien évidemment les intérêts des puissants et du capitalisme. Alors certes, vous allez me dire que l'avènement de la domotique a facilité grandement la vie de ces femmes et de ces filles au foyer, mais en fait, c'est pour mieux s'occuper de la famille et de l'entretien de la maison. Voilà, cela n'a pas permis par exemple de partager de façon équitable les tâches ménagères.
Oui, en fait, tu peux inventer n'importe quelle machine. Finalement, si t'as pas aussi des changements de société, en fait, les machines ne serviront qu'à perpétuer la société dans laquelle elles sont créées, quoi.
Tout dépend de l'intention que tu y donnes, en fait, et de l'époque, et puis à qui elle sert. On sait bien maintenant qu'elle sert aussi au capitalisme, bien sûr.
Ouais, moi, je voulais juste te dire, je vais juste tempérer ce que tu disais. C'est beaucoup d'hommes qui ont revendiqué les inventions. Par contre, on sait aujourd'hui que dans l'histoire, il y a beaucoup d'inventions qui ont été volées aux femmes et qui ont été publiées par des hommes. Et ça, il faut pas l'oublier, parce que c'est aussi une démonstration du patriarcat et de la capacité qu'ont les hommes à tout capter. Parce qu'il y a, on sait notamment dans certains domaines, notamment les mathématiques, qu'il y avait énormément de femmes chercheuses dont les travaux ont été récupérés par des hommes et qui s'en sont attribués le mérite. Or, sans mathématiques, pas de robotique.
Ah bah ça c'est sûr. Donc je revenais du coup à ce que je disais par rapport au partage des tâches de manière équitable. Les hommes ne se sont pas du tout mis dans la page puisqu'ils estimaient à ce titre, du fait de ces inventions, qu'ils soulageaient grandement donc les tâches pénibles de ces femmes qui devaient s'estimer heureuses. Là, je parle d'une époque effectivement où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, n'étaient pas encore émancipées et étaient sous l'autorité de leur mari. Par la suite, ça s'améliore, mais uniquement grâce au ras-le-bol des femmes. Oui. Je vous explique. Ce que les inventions ont permis de faire, c'est bien évidemment de consolider le rôle des femmes à l'entretien de la famille et de la maison, Mais ce qui n'avait pas été anticipé, c'est que cela libérerait finalement plus de temps libre, permettant à celle-ci, en fait, d'étudier, de se former et de réclamer plus de droits. On connaît tous l'histoire, en effet. L'égalité a fait quelques pas en avant par la suite, mais cela reste encore très insuffisant même aujourd'hui. Cette société donc actuelle, régie encore par le prisme du patriarcat, continue toujours de se dissimuler en fait dans ses nouvelles inventions technologiques et même dans la robotique et même plus précisément dans l'intelligence artificielle. Alors récemment, il y a eu une polémique en fait concernant Amazon et bien sûr d'autres grands groupes qui utilisaient en fait des logiciels afin de faciliter entre autres par exemple des recrutements. Et en fait, ils se sont révélés sexistes et racistes. En fait, les machines ne sont pas à l'abri des préjugés de ceux qui les conçoivent, bien au contraire. En fait, d'après une étude qui avait été publiée dans la revue Science, une équipe de l'université de Princeton, au New Jersey, ont découvert qu'un populaire système d'intelligence artificielle qui permettait aux ordinateurs de comprendre le langage humain entretenait des stéréotypes sexistes et racistes. Dans cette étude, on peut lire par exemple que le robot n'a pas seulement une vision éculée du rôle des femmes et des hommes, il est aussi franchement raciste. Il associe les prénoms par exemple typiques des Américains blancs comme Adam, Frank ou Nancy à des mots évoquant le bonheur, l'amour. Et le programme associe ceux des prénoms noirs ou non blancs, entre guillemets, comme Jamel, Leroy ou Latoya, par exemple, à la saleté, au mal et à la violence. Il fait des propres raccourcis. Et ce n'est pas surprenant, en fait. Si les automates recrachent des stéréotypes aussi réducteurs, c'est parce qu'ils apprennent du genre humain. Les algorithmes en question, en fait, ont été entraînés à l'aide d'un immense corpus de textes publiés dans Internet. Et malheureusement, tout cela est bien ancré et ça va malheureusement en s'empirant, puisque encore aujourd'hui, ce qui est de plus inquiétant, c'est que ces mêmes logiciels sont encore servis, et notamment dans certains États américains qui mettent ces algorithmes à la disposition de l'appareil judiciaire afin de guider les juges dans la détermination de la peine, entre autres. Et une enquête, par exemple, de ProPublica, qui avait publié en 2016, a révélé que ces programmes surestimaient donc le risque de récidive des Noirs et sous-estimaient celui du Blanc. Là, on est carrément dans Minority Report, là, carrément. Mais on anticipe carrément en fonction des préjugés.
C'est souvent ce que les gens oublient, c'est qu'en fait, tout ce qui est créé par l'être humain est influencé par l'être humain. D'ailleurs, tu parlais d'Asimov. Asimov, il en parle très bien dans ses livres. Il dit, de toute façon, toute création humaine est humaine, c'est-à-dire par définition. Or, dans une société profondément raciste ou sexiste, tout ce qui va être créé, si c'est créé par quelqu'un qui a une intention, même qui pense neutre, mais qui ne remet pas en cause les codes d'une société, ne va créer qu'un robot ou une intelligence artificielle à l'image de cette société. Et finalement, c'est dingue de se dire qu'Asimov avait vu ça dans les années 50 et qu'on a toujours pas compris ça en 2020, quoi. 1950-2020.
Ah oui, non, mais carrément. Mais même déjà à l'époque, en 1950, on voyait déjà l'an 2000 avec des avancées technologiques, mais avec une sorte de vision, alors pour certains, complètement utopiste, où on serait dans un monde enchanté grâce à la robotique, puisqu'il serait là justement pour nous soulager. Et nous, êtres humains, on serait là plus pour se faire plaisir et vivre en paix entre nous et en égalité, ce qui est complètement faux. On peut parler effectivement des bons technologiques, mais ça n'avance pas effectivement dans le sens que l'on souhaiterait. Hein. Tout ce qui est dans la robotique industrielle, militaire, et puis ça sert effectivement d'abord, comme je le disais tout à l'heure, au capitalisme afin d'engranger énormément de capitaux. Et avant de parler du futur et de l'avenir de ce que sera, finalement, avant de pouvoir réaliser cette crainte que le soulèvement des machines arrive, faut déjà enlever cette idée que les ordinateurs puissent avoir leur propre intelligence puisqu'ils sont encore à notre image actuellement. Sauf si demain, nous, on a envie de s'entretuer, alors là, oui, les ordinateurs viendront nous tuer.
Ben, en même temps, vu le nombre de guerres qu'il y a dans le monde ou de conflits armés, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que sans changement profond de société, les robots ne feront que nous jeter dans notre gueule le côté dégueulasse de nos sociétés, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je sais qu'il y avait aussi eu un truc sur une intelligence artificielle qui d'un coup est partie dans des trucs nazis, etc.
Oui, parce qu'on l'a lâché sur Twitter.
Mais oui, et tu dis, elle allait se gaver de ce que certains humains et certaines humaines écrivent, et donc, ça restitue ça, quoi. Et que donc, c'est vraiment, je trouve que c'est vachement marrant, c'est d'éloigner finalement le robot à ceux qu'il crée, quoi. Alors qu'en fait, effectivement, si le robot est dégueulasse, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui ont des paroles et des discours dégueulasses, en fait, quoi.
Ah tout à fait, oui, carrément. Et là, je disais, on peut encore... je termine sur cette partie-là, parce qu'effectivement, on peut vraiment dire beaucoup de choses. Mais je pourrais même terminer avec cette petite phrase. Effectivement, avant d'anticiper, de créer sorte de... d'intelligence artificielle ou de robots ultra perfectionnés et qui serait entre guillemets un super bon prototype pour nous soulager, il faudrait déjà d'abord à nous êtres humains changer de logiciel en vrai, notre manière de fonctionner et de penser. Et pourquoi pas laisser la main aux femmes finalement dans la création entière.
Par exemple.
Sauf si elle s'appelle Margaret Thatcher ou Marie.
Ouais, c'est déjà un robot, hein, la dame. On l'a appelée comme ça. Hein.
Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est toujours le manque de recul qu'on a sur la technologie. On pense que la technologie résout nos problèmes. Ce qui résout nos problèmes, en réalité, c'est la philosophie et la politique. La technologie, elle est au service d'une politique et d'une philosophie.
C'est un outil.
Et en fait, il faut remettre la robotique à ce qu'il est, c'est-à-dire un outil qui doit servir les visions politiques collectives. Alors, comme tu disais, MK, la problématique, c'est si tu as des fous qui ont envie de faire des folies, ils risquent de faire des folies. Mais à nous, justement, et je te rejoins largement, de changer notre logiciel pour éviter de faire des folies, en fait, tout simplement.
Mais garde fous et puis une éthique.
C'est ça.
Grave.
On fera un jour une émission sur éthique et robotique, ça peut être très intéressant.
Ça peut être intéressant.
Avec
oui,
des
ça,
gens
ça, ouais. Ça rime en plus.
Et en plus, pour le charme de la poésie, allons-y, quoi.
Alors, MK, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ou est-ce que tu as terminé ton sujet?
Non, je vais terminer sur ça et puis moi, je nous laisse dans cette réflexion au final.
Eh bien, alors, on passe un peu de musique.
Allez.
Thank you. technology. Machines to save our lives. Machines dehumanize.
Et vous êtes bien de retour sur la causerie au 102.2. Et là, vous venez de vous écouter un tube cultissime des années 80 avec le groupe Styx et ce fameux titre Mister Roboto que j'adore.
Oui, ça fait danser tout bizarrement.
Ah ouais, oui, carrément.
C'est très trippant comme musique.
Et allez voir le clip parce que c'est encore plus trippant.
Ah oui, oui, oui. C'est très kitsch, mais c'est cultissime.
Pépite.
Et alors là, c'est Jean-Yves qui va prendre la suite.
Ouais.
Et ce soir, c'est une version Jean-Yves Lepers qui est
ouais,
avec nous.
C'est tout à fait ça. Alors ce soir, je vous propose de commencer par jouer. Vous pouvez buzzer quand vous avez la réponse. Hein.
Allez.
Alors, je vais
jouer sur les starting blocks là.
C'est ça. Je suis Top, une entreprise née en 1973. Aujourd'hui multinationale, je n'étais à ma naissance qu'une sorte de start-up de 10 salariés. Filiale santé du groupe pétrolier Elf Aquitaine.
Non, si c'est pas ça, c'est Servier, je voulais dire, mais non, c'est pas ça.
Et non, on reprend. Top. Alors, j'étais donc une filiale de santé du groupe pétrolier Elf Aquitaine, alors dénommée Omnium Financé Aquitaine pour l'hygiène et la santé, dotée à ma création et pour mon développement de 500 millions de francs. Après mon introduction en bourse en mars 1980, je rachète en octobre la division santé du groupe Clean Mindy Industry, qui me permet de doubler de taille et d'avoir 10 filiales à l'étranger. Bientôt, le groupe que je constitue sous mon nom regroupera 120 sociétés, 60 françaises, 60 étrangères, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards et 240 millions de francs et un effectif de 14 500 salariés. En 1994, grâce à l'acquisition des activités du médicament sur ordonnance de Sterling Winthrop Pharma, je deviens un grand groupe mondial pharmaceutique.
Je suis Bayer.
Et non, je ne suis pas Bayer. On continue. Top. Dès le début des années 2000, je me déleste d'une partie de mes entreprises du secteur beauté et cosmétique afin de me recentrer sur le secteur pharmaceutique et en profite pour acheter une grosse entreprise du secteur appelé Aventis, pour 55 milliards d'euros. Et je deviens ainsi, en 2004, le troisième groupe mondial de la pharmacie. S'en suivront multiples achats, reventes d'entreprises du secteur. Entre 2009 et 2015, 4000 postes sont supprimés avec ce qu'on appelle, entre guillemets, plan d'économie et de restructuration. Oui, parce que ça passe toujours mieux que diminution de la masse salariale pour mieux gaver les actionnaires. La R&D, recherche et développement, est particulièrement touchée, subissant en parallèle une importante réorganisation et une diminution forte de ses moyens, et donc des projets de recherche. En 2015, j'annonce ma collaboration avec Google Life Science, département de Google qui regroupe toutes les activités liées à la santé, dans le but d'améliorer les résultats cliniques dans le diabète. C'est une chose que j'abandonne en 2019. Entre 2000 et 2010, je suis au cœur d'un scandale dénommé Dépakine. Condamné en 2017 par une famille de victimes, je me pourvois en cassation. Oui, l'éthique et moi, c'est pas pareil. D'après un article de Mediapart daté du 8 juillet 2018, les rejets de bromopropane, entre parenthèses cancérigène, d'écheminés de l'usine de Mourinx, qui produit des médicaments Dépakine, je vous le donne dans le mille, atteignent 190 000 fois la limite autorisée par arrêté préfectoral. N'est-ce pas sympa? D'autres composés organiques volatiles dangereux
Ah, je sais. Ce serait pas Sanofi par hasard?
Ah, bravo!
Ouais!
Bravo!
Voilà.
Ouais, parce que ce bruitage, je l'avais pas.
Voilà.
J'ai gagné quoi, un dictionnaire?
Oui, c'est ça. Tu as gagné un dictionnaire, je crois qu'il doit m'en rester un, de 1990. Je te l'enverrai avec plaisir, évidemment. Alors, pour terminer quand même la présentation de cette formidable entreprise, hein, c'est que donc, après le fait que Mediapart parle de ces rejets qui atteignent 190 000 fois la limite autorisée, et que d'autres composés organiques volatiles dangereux sont également rejetés en Forexcès, le 9 juillet, j'annonce, hein, parce que je suis toujours dans cette personnification de Monsieur Lepers ou un autre d'ailleurs qui l'a remplacé, j'annonce l'arrêt de la production à la suite des dépôts de plaintes de l'association France Nature Environnement. On ne se pose pas la question, hein, de la santé des habitants et des habitantes aux alentours, et pas beaucoup plus de celle des salariés, même si ça commence à sortir quand même. En 2019, si les bénéfices sont toujours de l'ordre de plusieurs milliards, hein, aux alentours de 8-9 milliards, hein, donc quasi la moitié est donnée aux actionnaires, et une autre partie sert au rachat d'actions. Ça, c'est une petite pratique ordurière de la bourse, hein, mais en même temps, la bourse est une ordure. Malgré tout ça, donc, hein, je licencie. Non, pardon. On dit qu'il y a des centaines de volontaires pour partir. C'est pas pareil, hein. Vous voyez l'utilisation des mots. Et actuellement, hein, je suis donc un des 5 premiers groupes mondiaux de la pharmacie, et je suis également depuis novembre la première capitalisation boursière française. J'emploie 28 000 personnes en France, 100 000 dans le monde. Et dernière info quand même, c'est que début 2020, la branche française est mise en examen pour blessures involontaires et tromperies aggravées, puis en août pour homicide involontaire, et c'est toujours évidemment en lien avec la dépakine. Et je suis donc Sanofi. Bravo MK, tu es vraiment très fort et tu as la chance d'avoir gagné ce vieux dictionnaire. Donc voilà, en fait, je voulais juste effectivement, hein, causer de cette grosse boîte du secteur pharmaceutique, Sanofi, hein, qui est de son raté sur le vaccin contre la Covid. On peut quand même appeler ça un raté, je pense, hein, dans le domaine. Donc cette grosse boîte capitaliste, hein, comme plein d'autres, hein, comme toutes les autres, qui par ses choix en fait a privilégié les actionnaires, en fait, les rachats d'actions, comme je vous le disais avant, plutôt que de faire ce à quoi elle est quand même censée servir au début, c'est-à-dire fabriquer des médicaments et des vaccins, voilà. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que en période de pandémie mondiale, en fait, ça leur éclate à la gueule, en fait, et ça les affiche quand même en public, ça affiche en tout cas en public cette soif de pognon et ce manque total en fait de projection. Hein. Parce que je veux dire, et dans ce domaine, la projection dans le milieu médical, c'est quand même investir dans la recherche et le développement, parce que quand même c'est primordial, et la modernisation évidemment aussi des outils, des techniques et la formation des salariés. Parce que, entre parenthèses, quand même, ça fait quand même plusieurs, je pense, années, voire quelques décennies, qu'on parle quand même du risque de grosses pandémies à l'échelle mondiale, etc., qui sont en plus accentuées avec la notion de déforestation, de réchauffement climatique, etc., etc. Donc, je veux dire, si t'es un peu sensé quand même et pas que omnubilé par le pognon, tu vas quand même essayer de partir vers des recherches là-dedans, quoi, et de développement, quoi. Mais bon, faut croire qu'ils sont plus financiers que chimistes ou biologistes. Enfin, bref. Donc juste quand même, je vais préciser que je vais pas jouer ici, hein, la partition de Ruffin, de son prénom...
François
Ruffin, et ça clique de la FI, pardon, qui n'a finalement, dans un de ses articles là qu'il a fait sur ce thème-là, il n'a que libéralisme et Macronie en bouche, en fait. Donc déjà, je viens de dire bravo François, il découvre en fait le capitalisme, mais eux, en fait, ils veulent le contrôler, parce qu'ils veulent pas vraiment l'abattre, en fait. Donc eux, ils veulent le contrôler, l'encadrer, en fait, hein, une sorte de capitalisme d'État qui serait vachement mieux. Tu parles, Charles, c'est le capitalisme, en fait, qui est une plaie, en fait, qu'il soit d'État ou pas. Et quant à sa fixette sur la Macronie, c'est quand même oublier que tous les chefs d'État sont des lèche-bottes des grosses entreprises du CAC 40. tous ont été tour à tour VRP de LVMH, d'Areva et de sa filière nucléaire. Ah, pardon, c'est plus Areva, c'est Orovo ou je sais pas quoi.
Orano,
c'est pour oublier que c'est un truc de merde. Tous ont aussi été de formidables vendeurs d'armes, évidemment. Donc, ouais, finalement, c'est pas juste la Macronie, en fait, on dirait. Donc, ne soyons pas aussi idiotes et simplistes que ce cher François Ruffin, qui, par sa fixette sur la Macronie et ses déclarations enflammées à l'Assemblée, passe aussi sous silence, en fait, le rôle que son bord politique, hein, la gauche de pouvoir, bah, a joué, en fait, dans la libéralisation de tout un tas de choses en France. Faudra quand même pas l'oublier. Et que même son pote de parti, un certain Jean-Luc Mélenchon, je crois, qui est la France, la patrie et la République, bah, était en fait dans certains de ces gouvernements libéraux. Et c'est quand même qu'ils ont la mémoire un petit peu courte, ces chevaliers blancs de la gauche française quand même. Et évidemment, enfin, vous doutez bien que si je vous dis ça, c'est pas pour défendre un autre parti ou je sais pas quoi, hein, comme je vous le dis souvent ici, bah, ce sera toujours mieux sans eux, et ce sera toujours sans eux qu'on y arrivera le mieux. C'est surtout ça, en fait. En gérant nous-mêmes nos vies, en gérant aussi nous-mêmes nos outils de travail, hein, vous voyez, de production en tout cas. Donc, ni nationalisation des entreprises, de mon point de vue, parce que ça, c'est... Parce que Papa État, en fait, est aussi mauvais patron que les autres, si ce n'est pire. Alors, entre parenthèses, pensez au cas des infirmières, des instituteurs, des profs, leur situation sociale, économique. On se rend compte que le patron État n'est pas meilleur. Donc, ni nationalisation, pardon, ni privatisation, qui, elle, ne sert que les intérêts des possédants et des actionnaires et tout ça. Donc, dans les deux cas, les salariés sont exploités. Donc, soit évidemment pour le gentil petit État, soit pour le gentil petit patron. Bref, je pense qu'il faut vraiment sortir en fait de ce binarisme politique qui ne permet que difficilement en fait d'imaginer d'autres choses en fait. Et ça, c'est le plus gros problème, je pense, c'est qu'on manque quand même beaucoup d'imaginaire aujourd'hui. Et donc, bah ça s'appelle la réappropriation et la gestion des outils de production par celles et ceux qui savent s'en servir. Et en partant des besoins des personnes, des besoins de la base, et non pas des besoins des actionnaires. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit coup de gueule. Et je voulais juste terminer quand même en soulignant que la CGT de Sanofi en France et d'autres syndicats dans d'autres pays, toujours dans l'entreprise Sanofi, ils demandent en fait que l'Europe ou les pays qui la composent réquisitionnent les outils de production de Sanofi, afin d'augmenter la quantité de vaccins produits. Ouais, parce qu'en fait, on peut aussi avoir une autre lecture là-dessus. Hein. C'est histoire quand même de sortir au plus vite de cette pandémie partout. Et pour toutes celles et ceux qui vivent sur cette petite planète. Et pas juste pour les pays riches. Europe, Japon, une partie de l'Asie, États-Unis. Finalement, les autres, on leur dira, bah, vous avez qu'à les fabriquer vous-même, bande de pauvres.
Ou on vous les vendra dans 4 ans.
Ou on vous les vendra dans 4 ans, une fois que nous, on sera tous vaccinés. Donc voilà, donc c'était vraiment, c'était juste interroger ce truc, et déjà, enfin, rire, hein, de cette grosse entreprise qui pèse quand même quelques milliards, qui est Sanofi, dont plein de politiciens sont les VRP, hein, finalement, et qui n'est même pas capable de faire un truc basique, quand même, comme un vaccin, en tant que pandémie mondiale. Et je trouve ça quand même assez, C'est les joies du capitalisme, en fait. Et que là, pour faire un petit peu d'économie, je me demande jusqu'à quel point Sanofi ne pourrait pas être racheté. Je pense vraiment que là, ça peut être très chaud dans ce secteur de se casser autant la gueule, d'être aussi mauvais. Et vraiment, enfin, je trouve que c'est toujours intéressant. C'est pas parce qu'on est anarchiste ou anticapitaliste qu'il faut pas s'intéresser au fonctionnement du capitalisme et à tous ses acteurs. Parce que justement, je pense qu'il faut absolument essayer de comprendre les mécaniques et tout ce qui se met en place. Et que là, Sanofi, je pense que c'est vraiment un manque de professionnalisme, on pourrait dire, et une soif vraiment du pognon et une incapacité, mais vraiment réelle, à se projeter. Enfin, il y a quand même, je trouve que c'est quand même assez grave qu'une telle entreprise du secteur dans lequel elle est, qu'elle soit autant incapable d'être à la hauteur de la situation aujourd'hui, quoi. Et c'est pas pour défendre les autres non plus, hein, je suis pas là pour ça. Mais voilà, c'était juste envie de parler de ça. Parce que je trouve que c'est marrant de voir une entreprise qui se ridiculise.
Eh ben, merci.
Vous avez rien à dire? Non.
Non, moi, j'attends mon lot, hein, c'est tout.
Tu auras ton dictionnaire bientôt. Eh ben, alors, je vous propose d'écouter une petite musique et on revient tout de suite après.
Allez, c'est parti.
No, you fucking die, all of you witches! I'll let you go back down your fucking strokes.
I'm on the stroll, I'm wandering on a lonely day. I'm on the lonely wandering, why she didn't stay. I'm on the stroll, I'm wandering on a lonely day. I'm on the lonely wandering, why she didn't stay.
The old pinball was a merry old soul, and a merry old soul was me. Very fine fiddle had he, and a very fine fiddle had he.
Toujours à l'écoute de la causerie, bien évidemment, comme tu l'es dimanche, de 22h à 23h, même en 23h, même en mode confiné. Et on vient de s'écouter le nouveau titre de la semaine du cabinet des curiosités de Altarba. Et là, c'était donc un titre en compagnie de Prolétaires. Et le titre, c'était Alright.
Alright.
Yeah. Et donc, on va terminer cette émission. Je crois que toi, tu as une brève.
Oui, une petite brève. Si vous souhaitez soutenir le monde de la culture qui, en ce moment, est un petit peu en difficulté, comme vous le savez tous, ça se passe, il y a une manifestation prévue donc le mardi 19 janvier 2021 à 12h30 devant l'Opéra. Donc, l'Opéra, c'est un place de la Comédie dans le premier, juste derrière la mairie centrale. Vous ne pouvez pas la rater, l'Opéra. Normalement, ça ressemble à un grippin. Voilà. Donc, c'est à 12h30.
Ok, très bien. Et souvent, ça se décide en milieu de semaine, mais c'est les manifs contre la loi sécurité globale.
J'ai pas la prochaine.
Oui, justement. Voilà. Vu qu'on enregistre le samedi, on n'a pas toutes les infos pour les suivants.
Ben, il y a celle en cours aujourd'hui, le 16, et la prochaine, on ne sait pas quand elle est.
Et ben voilà, on va se quitter, parce qu'on est presque dans les temps.
Mmh. Oui.
Ah oui.
On a attendu aussi un diplôme pour ça, parce qu'on est arrivé à faire une émission d'une heure.
Mais là, tu fais de la rallonge, là.
Oui, en fait, c'est tout.
Allez, pas
ça. Et donc, on se quitte avec un vieux titre, mais que j'aime beaucoup, de Nino Ferrer, qui s'appelle La maison près de la fontaine. C'est du free jazz, c'est très étonnant. Je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, et apprécier pour ceux qui connaissent. Voilà.
Et on donne rendez-vous
la semaine prochaine.
Oui, bah, très bien. On
à la semaine
souhaite
prochaine.
Bon courage pour cette semaine et à la semaine prochaine. Des bisous.
Des bisous.
À tous.
Ciao, ciao.
Salut. Ciao.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. C'est le progrès.